Très bon réveil à tous, voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Comment se poser en rassembleur dans des États-Unis divisés, notamment sur la question du mur à la frontière avec le Mexique? C'est la difficile équation à laquelle Donald Trump a tenté de répondre cette nuit lors de son traditionnel discours sur l'Union. Le président des États-Unis a malgré tout dénoncé des enquêtes partisanes ridicules qui peuvent miner, selon lui, l'économie américaine.
Et puis, à la une, en France, des tensions au Parlement. Des sénateurs, des députés s'opposent à différents projets de l'exécutif.
Sur la privatisation du groupe Aéroport de Paris, sur la loi dite anti-casseur, des manifestations. Par ailleurs, hier en France, ont rassemblé entre 137 000 et 300 000 personnes dans 200 villes du territoire. C'est plus que lors des 10 derniers actes de mobilisation des Gilets jaunes.
Et puis la question du jour, dans une dizaine de minutes, Catherine, Mediapart, où commence l'atteinte à la vie privée, où s'arrête la liberté d'informer? On en parlera avec Emmanuel Derieux, il est professeur de droit des médias à l'université Panthéon à Sas.
Le programme que je veux présenter ce soir n'est ni républicain ni démocrate, c'est celui du peuple américain. C'est avec ces mots que Donald Trump a tenté cette nuit de s'opposer en rassembleur face au Congrès réuni au grand complet à Washington pour le traditionnel discours du président sur l'état de l'Union. Face à Donald Trump, plus de 500 élus qui se déchirent encore sur le financement du mur cher à Donald Trump pour empêcher l'immigration illégale du Mexique vers les États-Unis. Donald Trump a lancé un appel au compromis. Bonjour Grégory Phillips.
Bonjour Catherine.
Vous êtes le correspondant de France Culture à Washington. À moins de 2 ans de la prochaine élection présidentielle, où Donald Trump entend d'ailleurs briguer un second mandat, le républicain a mis en avant cette nuit ses bons résultats à la Maison Blanche et demandé au Congrès de choisir entre se définir par des différences ou avoir l'audace de les transcender.
Oui, 1h23 de discours, on n'était pas très loin d'ailleurs du record de durée détenu par Bill Clinton, et donc une volonté de rassemblement, alors qu'on sait que ce Congrès américain évidemment est divisé, un Sénat majoritairement républicain, une Chambre des représentants à majorité démocrate, et on sait aussi que le sens du compromis n'est pas forcément la principale qualité du 45e président des États-Unis. On l'a vu récemment encore avec la paralysie partielle des administrations, avec ce shutdown du mois de janvier. Mais Trump a quand même dit ceci aux parlementaires américains. Beaucoup d'entre nous ont fait campagne sur les mêmes promesses, défendre les emplois américains, avoir des accords commerciaux justes et équilibrés pour nos travailleurs, reconstruire nos infrastructures, créer un système d'immigration qui soit sûr, juste et moderne. Et enfin, avoir une politique étrangère qui place d'abord en premier les intérêts américains. Alors, dans les rangs démocrates, les applaudissements sont soit inexistants, soit polis parfois sur les sujets les plus consensuels, mais on voit bien, en scrutant le visage de Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, que la concorde avec Trump n'est pas pour demain.
Effectivement, Grégory, le masque d'un président rassembleur s'est rapidement craquelé cette nuit avec de nouveaux propos polémiques de Donald Trump sur les sans-papiers criminels ou encore sur les différentes enquêtes en cours.
Oui, il y a par exemple ce moment étonnant où, au détour d'une phrase, Donald Trump menace son opposition. Si vous continuez vos enquêtes ridicules, politiques et partisanes sur moi, alors vous compromettrez mes bons résultats économiques. Sur le mur à la frontière, Trump persiste et signe, il va le construire, et on sait que, évidemment, c'est le principal point de désaccord entre démocrates et républicains. Et puis il y a ce message aussi appuyé en direction de l'électorat conservateur et anti-avortement. Pour défendre la dignité de chaque personne, je demande au Congrès de voter une loi pour interdire les avortements tardifs, les avortements de ces enfants qui ressentent de la douleur dans l'utérus de leur mère. Alors, dans les rangs démocrates, les très nombreuses élues femmes ne bronchent pas sur un sujet comme celui-ci ou sur le mur encore plus. On sait que le président aura du mal à rassembler, vous l'avez dit, au point que les États-Unis, dans 10 jours, risquent de se retrouver à nouveau dans cette situation de shutdown si démocrates et républicains ne trouvent pas un accord sur la construction de cette barrière, de ce mur que Trump veut à la frontière avec le Mexique.
Grégory Philips, merci pour toutes ces explications ce matin en direct de Washington pour France Culture. Et toujours dans son discours sur l'état de l'Union, Donald Trump a défendu cette nuit son choix de retirer les troupes américaines de Syrie et d'Afghanistan. Les grandes nations ne se combattent pas dans des guerres sans fin, a-t-il déclaré. Il s'est également félicité du dialogue qu'il a initié avec la Corée du Nord. Donald Trump a annoncé qu'il allait d'ailleurs rencontrer Kim Jong-un, le maître de Pyongyang, lors d'un sommet les 27 et 28 février prochains. Ce sera au Vietnam. À propos de la Corée du Nord, encore des experts chargés de contrôler pour l'ONU l'application des sanctions imposées ces dernières années à Pyongyang affirment que ces sanctions sont inefficaces. Le programme de missiles nucléaires et balistiques de la Corée du Nord reste intact car Pyongyang utilise des installations civiles, notamment des aéroports, pour assembler et tester des missiles balistiques afin d'éviter qu'ils ne soient la cible de raids. Toujours selon ces experts mandatés par le Conseil de sécurité de l'ONU, la Corée du Nord continue également de violer l'embargo sur les armes et a tenté de fournir des armes légères à la Syrie, aux rebelles houthis au Yémen ou encore à la Libye et au Soudan.
7h05 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Catherine Dutu. Sénateurs et députés tentent de s'opposer à différents projets de l'exécutif.
Le Sénat tout d'abord s'est opposé hier au terme de débats parfois houleux au projet de privatisation du groupe ADP, Aéroport de Paris, droite et gauche invoquant des arguments économiques autant que des questions de souveraineté ou de sécurité nationale. Et puis, si l'Assemblée nationale a adopté hier en première lecture la loi dite anti-casseurs visant à prévenir les violences dans les manifestations, 50 députés La République En Marche se sont abstenus de voter le texte, un record depuis le début du quinquennat, signe du malaise sur ce texte jugé liberticide par ses détracteurs. Les députés contestent en particulier l'article 2 qui instaure l'interdiction individuelle de manifester sur décision du préfet. On y revient dans le journal de 7h30. Arrêtons-nous à présent sur les manifestations qui ont réuni hier entre 137 000 et 300 000 personnes partout en France. Défilé à l'appel de la CGT notamment, avec pour la première fois le soutien officiel de Gilets jaunes, et le nombre total de manifestants a dépassé d'ailleurs, quelles que soient les sources, le nombre de protestataires lors des 10 derniers samedis de mobilisation des Gilets jaunes. Esquisse peut-être d'une certaine convergence des luttes autour de la justice sociale et fiscale, de la hausse des salaires et des pensions de retraite. Mais pour Frédéric, Gilets jaunes de la première heure dans le Val-de-Marne, pas question pour autant de laisser les syndicats reprendre la main.
Moi je suis femme de médecin, j'ai pas de problème de fin de mois, mais même mon mari aussi. Et dans les Gilets jaunes, on a été sur le rond-point tout le temps, parce que moi ça me touche de voir des vieilles personnes qui sont à la retraite, qui ont galéré toute leur vie et qui n'ont rien pour bouffer. On se rend compte qu'avec les syndicats et les partis, ça bouge pas quoi. Alors qu'avec les ronds-points, les gens amènent des nouvelles idées, il y a quand même y a une émulation, on sent que ça tient. Que là, c'est-à-dire que c'est toujours la même route, pas de débordement, pas de ceci, pas de cela, mais on se rend compte que bon, ça va rien changer, quoi, non?
Parce que vous voulez du débordement?
Oui, j'en suis arrivée là, ouais. Ouais, je pense qu'à un moment, on peut pas faire quelque chose sans qu'il y ait de la casse, j'en suis persuadée, oui.
Frédéric, Gilet jaune de la première heure dans le Val-de-Marne, au micro d'Anamel Grelier. Et si vous êtes encore syndiqué, n'hésitez pas à nous expliquer les raisons de votre engagement, témoignez sur les réseaux sociaux pour notre chronique interactive du vendredi sur France Culture, hashtag Je suis encore syndiqué. Nouveau round dans le combat judiciaire qui oppose depuis 12 ans l'agriculteur Paul François à Monsanto. Ce céréalier charentais demande réparation auprès du géant de l'agrochimie après avoir été gravement intoxiqué par l'un de ses herbicide, le Lasso. Paul François a eu gain de cause en première instance et en appel avant que la Cour de cassation n'invalide la décision sur une erreur de droit. Le dossier est donc de retour cet après-midi devant la Cour d'appel de Lyon. Et Paul François espère que ce procès incitera les politiques à prendre enfin leurs responsabilités face aux pesticides, à commencer par Emmanuel Macron qui, il y a quelques jours, a déclaré qu'on ne parviendrait pas à sortir à 100% du glyphosate d'ici 3 ans, comme il s'y était pourtant engagé. Inacceptable pour Paul François.
Je suis très déçu du comportement d'Emmanuel Macron. Je m'explique. Dans sa campagne, c'est lui qui a abordé les pesticides et qui a abordé le problème du glyphosate. C'est lui qui s'est engagé, il y a un an, au Salon de l'Agriculture, à dire « je prends mes responsabilités pour retirer ce produit parce que c'est moi qui serai jugé à l'avenir par les générations futures ». Eh bien, malheureusement, un an après, il revient en arrière, il ne l'a pas inscrit dans la loi, il reconnaît que ce ne sera pas possible, mais il reconnaît qu'il avait qu'à prendre la décision. Et puis, Plus actuellement, vous savez, on parle du glyphosate, mais il y a quelques jours, le gouvernement avait l'occasion de mettre un fonds d'indemnisation en place pour les victimes des pesticides. C'était vendredi dernier. Moi, j'ai pu intenter un procès, mais malheureusement, des milliers de victimes ne peuvent pas faire la même chose. Et donc, on demandait est-ce qu'il y ait un fonds d'indemnisation. Et le gouvernement a demandé à ses députés de ne pas suivre cette loi qui a été votée à l'unanimité au Sénat. Ils n'ont d'ailleurs même pas voté parce que le calendrier législatif ne l'a pas permis. Et ça veut dire que ce gouvernement, non seulement au-delà du glyphosate, mais sur les pesticides en règle générale, aujourd'hui est plutôt du côté des fabricants des produits que des victimes. Et donc je suis effectivement très énervé. Si on gagne ce procès, je ne manquerai pas de dire qu'un simple citoyen et la justice va plus vite que les hommes politiques qui ont les pouvoirs de prendre des décisions.
L'agriculteur Paul-François, joint par Fiona Mogadam. En pleine offensive de Paris pour mieux taxer les géants du numérique en France et en Europe, le groupe Apple a trouvé un accord avec l'administration fiscale française pour solder 10 ans d'arriérés d'impôts. Près de 500 millions d'euros ont été réglés par la multinationale, Maxime Fayol.
En France, Apple paye des impôts via deux sociétés, Apple Retail France d'un côté et Apple France de l'autre. Combinez les deux, vous obtiendrez un chiffre d'affaires en 2017 de 800 millions d'euros. Alors pourquoi si peu ? Eh bien c'est simple, à chaque fois que vous achetez un produit sur l'App Store, une application par exemple, ça ne tombe pas dans les caisses de ces sociétés en France, mais en Irlande, où la firme s'arrange depuis plusieurs années avec l'État irlandais pour ne payer qu'une toute petite partie d'impôts, de l'optimisation fiscale jugée trop agressive par la Commission européenne, qui a condamné Apple à verser 13 milliards d'euros à l'Irlande. Ce chiffre d'affaires en France, 800 millions d'euros, on l'a dit, c'est peu, et c'est une somme largement sous-évaluée selon un cabinet de consulting français. En 2011, il estimait déjà les activités d'Apple en France à plus de 3 milliards d'euros, sûrement bien plus aujourd'hui avec le développement de la technologie. L'arriéré d'impôt pourrait donc être, en théorie, largement supérieur aux 500 millions d'euros de cet accord, mais ce chiffre est le fruit d'une négociation entre Bercy et la société à la pomme. Une négociation plutôt souple en France quand on compare aux 38 milliards de dollars infligés à Apple aux États-Unis en guise d'impôts exceptionnels sur sa trésorerie à l'étranger.
Arrêtons-nous à présent sur la journée mondiale contre les mutilations sexuelles féminines. Il est urgent de mettre fin à ces pratiques barbares, rappellent aujourd'hui l'ONU et bon nombre d'ONG, alors que 200 millions de jeunes femmes et de filles ont survécu à ces mutilations dans 30 pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie, à Nadine Epstein.
Quatre genres de mutilations sexuelles sont pratiquées sur les filles. La clitoridectomie, ablation partielle ou totale du clitoris, l'excision, ablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres avec ou sans excision des grandes lèvres. L'infibulation, rétrécissement de l'orifice vaginal par recouvrement et enfin, dernières interventions, les organes génitaux sont piqués, percés, incisés, raclés ou cautérisés. Dans tous les cas, il s'agit de pratiques qui altèrent ou lèsent intentionnellement les organes génitaux féminins qui peuvent provoquer, outre la douleur et la fièvre, de graves hémorragies, des problèmes urinaires, des kystes, des infections, la stérilité, voire des décès. Par an, plus de 3 millions de jeunes filles sont menacées par ces pratiques. Ces mutilations sexuelles, forme extrême de discrimination à l'égard des femmes, sont généralement infligées aux mineurs entre petites filles et l'âge de 15 ans, ce qui constitue en plus une violation des droits de l'enfant. 26 pays d'Afrique et du Moyen-Orient et 30 autres pays ont adopté une loi contre les mutilations sexuelles féminines. Malheureusement, elle n'est pas appliquée. Par exemple, en France, on parle de 60 000 excisions et chaque année, 3 mineurs sur 10 risquent une mutilation sexuelle.
À suivre dans le journal de 7h30, la question de l'arrivée de l'aide humanitaire au Venezuela à la demande de l'opposant Juan Guaido. Le temps de ce mercredi 6 février, perturbé sur le nord-ouest du pays, plus ensoleillé partout ailleurs. Les températures sont comprises au meilleur de la journée entre 7 et 15 degrés du nord-est vers le sud-ouest.